Des corps, de la bricole et un de ces merdiers. Sur Radio Piquet.
Une chanson qui s'appelle The Death of Emmett Till. C'est une chanson de Bob Dylan de 62 et on a écouté la reprise qu'en a faite John Baez. Donc en fait, ça va nous permettre de parler du racisme, d'introduire ce que vous avez commencé, Kate et Charline, là, sur ces problèmes.
On fait une petite pause musicale. Nico nous la présentera après cette pause.
Listen to this story, it's one the world should know, of a Negro boy 14 named Emmett Till. From Chicago to Mississippi to see his Uncle Mose, we won't see Little Emmett anymore. Emmett Till, his name will be a legend we all know. From Chicago to Mississippi, Tallahassee, Emmett with his little pals, to money Mississippi grocery store to buy. They bought bubble gum and candy from the woman in the store. They turned to leave, little Emmett said goodbye. His little pal said to him, what you mean they're saying goodbye to the woman in money grocery store? They said she's good looking, Emmett said, ooh, you're right. And that remark cost Emmett Till his life. Emmett Till, his name will be a legend we all know. From Chicago to Mississippi to see his Uncle Mose, we won't see Little Emmett anymore. 'Twas on the following Sunday, they say about 2 a.m., two bad men came and knocked on Mose's door. They said to Uncle Mose, we've come to get the boy. He whistled at that woman, he must go. He was taken to a stable, beaten, shot right through the head. All one could hear blows and Emmett's cry. Last words of Mama, save me, have mercy on me, Lord. The blow still fell, but little Emmett had died. Emmett Till, Emmett Till, be a legend we all know. From Chicago to Mississippi to see his Uncle Mose, we won't see Little Emmett anymore. Weights are placed upon his body in the river they'd fling, believing their foolish crime they'd hide. But in time the body came afloat, still wearing Daddy's ring, ringing feet Uncle Mose identified. Bad men went to trial, sat and grinned and smoked and chewed, as the fearful witnesses all did testify. Jury out 65 minutes, returned verdict in hand. Not guilty was their very prompt reply. Emmett Till, Emmett Till, his name will be a legend we all know. From Chicago to Mississippi,
Emmett Till, alors moi je ne connaissais pas cette histoire avant la semaine dernière. J'ai découvert dans un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Se défendre d'Elsa Dorlin. Alors qui était Emmett Till ? Eh bien, c'était un jeune adolescent africain-américain qui a été à l'âge de 14 ans, en fait, qui a été condamné parce qu'on l'avait accusé d'avoir agressé une femme blanche. Et il a été, en fait, il n'a pas été condamné, il a été lynché. Et on a retrouvé son corps après. Ça se passe en 1955. Donc il a été assassiné par une bande de racistes blancs. Et en fait, elle en parle dans son bouquin sur tout un chapitre où elle parle du fondement à l'origine des mouvements racistes aux États-Unis, quoi, en tout cas de ces groupes qui faisaient leur propre justice en faisant des lynchages et en faisant de la chasse aux noirs, quoi, hein, pour faire vite. Elle parle de ça parce que, en fait, c'est symptomatique de comment s'est construit le racisme. En 2007, en fait, la femme qui avait accusé Emmett Till, âgée de 14 ans, a reconnu qu'en fait, c'était faux. Elle avait menti. Elle n'avait pas du tout été agressée par ce jeune homme. Elle avait été agressée par des Blancs. Mais en fait, il y avait une telle intériorisation du racisme qu'en fait, la question du viol des femmes avait été réutilisé par les groupes suprémacistes blancs en disant que ça peut être qu'un noir qui viole parce qu'ils sont par nature sauvages, ils sont par nature des bêtes, etc. Du coup, voilà, elle avait menti à l'époque en accusant ce jeune garçon qui travaillait dans l'épicerie à côté de chez elle, et le gars était lynché, quoi. Elle est revenue sur ça en 2007 seulement, quoi. Et voilà, moi, en lisant cette histoire, ça m'a bouleversé, quoi. Et juste, ça, derrière ça, en fait, il y a ce que je vous ai dit, cette espèce de culture du lynchage. Ça fait partie du chapitre du livre d'Elzard d'Orlin qui s'appelle « Justice blanche », du lynchage à la légitime défense. En fait, comment les Blancs, les dominants... Qui était à la tête de ce pays fin... on parle fin 19e, début 20e. Comment ils justifiaient, en fait, leurs actes atroces, quoi, leurs actes abominables? Ils le justifiaient en disant « on se défend ». On se défend devant des intrusions d'autres gens, d'autres personnes qui ne sont pas par nature des Américains ou qui ne sont pas par nature comme nous, etc. Du coup, cette défense va justifier après des pratiques atroces de lynchage, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que elle parle de vigilantisme. Elle est vigilante. Ouais, vous voyez cette idée que il faut se préserver. Il y a toujours un danger. Soyons vigilants. Des termes qui reviennent à la mode aujourd'hui, hein, qu'on entend énormément. En fait, ça a une histoire, ça fait déjà plus d'un siècle qu'il y a ce mouvement-là, quoi. Et ces groupes de vigilants, voilà, qui apparaissent, ça remonte un petit peu avant, 18e siècle, mais ils se développent au 19e, début du 20e. Ils ont pratiqué le lynchage. Et vous savez d'où ça vient déjà, ce terme lynchage ?
Non.
Le terme lynchage ? Il vient d'un type qui s'appelle Charles Lynch, qui est un des premiers à avoir créé un groupe de vigilants. Donc là, on est fin du 18e. Et qui avaient après, en fait, qui ont réussi à faire passer une loi qui les autorise à ne pas respecter les lois. Vous voyez, hein ? Et du coup, à justifier les pratiques de lynchage, les pratiques de chasse, chasse à l'étranger, etc., quoi. Et du coup... Pour justifier ça derrière, il y avait tout un embrigadement de la population. Parce qu'il y a souvent une idée assez courante que les lynchages seraient dus à des foules complètement affolées, qui ne réfléchissent pas. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est qu'il y a des groupes racistes, suprémacistes, qui sont clairement dans une vision politique, en fait, tout le reste de la société, les Noirs, etc., sont nos étrangers, donc ils s'organisent, et ils vont embrigader toute la population, et on n'a pas affaire à des foules comme ça, complètement déconnectées de ce qui se passe, en fait. Elles sont organisées. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que le lynchage est une pratique normale, en fait, de cette époque-là, quoi. Organisée par les groupes dominants, qui va embrigader toute la population. Voilà, elle en parle comme ça. Donc, les lynchages survenus entre 1880 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale constituent des scènes de la vie quotidienne et témoigne de comportements sociaux qui étaient considérés comme normaux. La population d'une ville ou d'un village se rassemblait autour d'un homme qu'on s'apprêtait à torturer, à mutiler, à brûler vif ou à pendre. C'était normal, ça faisait partie de l'éducation presque. Les écoles fermaient pour l'occasion afin de laisser les enfants assister au spectacle. On laissait jouer ces derniers avec la dépouille. Les familles pique-niquaient après l'exécution à l'ombre des arbres où les corps suppliciés étaient pendus. Voilà, le lynchage est une pratique normale. Le lien avec l'histoire d'Emmett Till, c'est parce qu'on a fait... Il y a eu un enjeu après sur le corps des femmes. Parce que en fait, la plupart des viols qui se passent à l'époque ne sont pas des viols de soi-disant des sauvages noirs, hein, comme disait la propagande raciste, mais la plupart de dominants blancs, quoi. Et du coup, il y a eu un enjeu sur la liberté des femmes et sur l'usage de leur corps, quoi. Et les suprémacistes blancs ont fait tout un travail de s'approprier en fait le corps des femmes et jusqu'à ce que les femmes elles-mêmes blanches intériorisent le fait qu'elles ne peuvent être qu'être agressées par les noirs. D'où cette histoire d'Emmett Till où la femme ment à l'époque et c'est seulement 50 ans après qu'elle revient sur son témoignage. Voilà.
Je crois que c'est encore le cas aujourd'hui en France. Alors, peut-être c'est plus du lynchage, mais en tout cas, l'extrême droite et autres réac en médiatisant à fond des histoires de viol qui sont faites par des étrangers ou des personnes racisées, en fait, essayent de manipuler. Les personnes comme quoi ce serait les personnes noires, les étrangers qui violent. En fait, non. En fait, le viol, c'est un truc d'oppression systémique. Enfin, je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas plus de viol de personnes racisées. Et même, je pense, bien au contraire, de la même manière, on parle jamais des femmes racisées qui sont violées par des blancs, la plupart du temps. En fait, c'est ce discours-là, il est encore... très présent aujourd'hui.
Bien sûr. Après, je ne parle pas du bouquin plus que ça, parce que ça creuse tout ça, mais elle montre que c'est à l'origine, quoi. C'est fondatrice, ces histoires-là qu'on évoque, de ce système dominant des Blancs, alors aux États-Unis comme en Europe, quoi. On est encore là-dedans, quoi. Quoi, par exemple, il y a eu l'épisode, là, je ne sais plus quand, il y a 2 ans, à Noël, en Allemagne.
À Cologne, oui.
À Cologne. Et comment on a instrumentalisé, là, cette espèce de sauvagerie qui viendrait des étrangers, regardez, ils s'attaquent à nos femmes, quoi. Alors qu'en fait, c'était carrément autre chose.
La plupart des viols, ils sont dans la sphère privée, par des conjoints, de la famille, ouais. Des amis. Enfin, faut arrêter le monstre violeur.
Ouais. Du coup, on va continuer. On va écouter pas mal Kazé. J'ai pris plein de petits bouts d'une interview de Kazé qui cause. Et on va l'écouter déjà sur la première question qu'on lui pose souvent. Mais c'est pas un petit peu violent, toutes les paroles et les chansons qu'elle chante. On écoutera dans la deuxième partie, enfin entre les deux parties du casier dans le texte pour avoir une idée. Mais déjà, la question qu'on lui pose un peu tout le temps, elle y répond.
En France, un noir qui dit il y a du racisme, tout de suite c'est de l'agression, tu vois, tout de suite c'est violent. Tu vois, quand moi je raconte mon histoire, c'est juste raconter mon histoire, tu vois, c'est dire bah voilà, il se passe ça, voilà où je vis, voilà d'où je viens, voilà ce que je pense, et tout de suite c'est agressif. Par contre, si t'as, je sais pas moi, n'importe quel historien qui va te parler de Napoléon, on va dire que c'est de l'histoire. Ou, je sais pas, n'importe quel mec qui va raconter sa vie dans les plaines ardéchoises, tu vois, tout d'un coup, c'est intéressant. Mais si c'est un Renois qui dit, ouais, mais putain, c'est galère d'être Renois en France, tout de suite, c'est l'agression. Ça dépend, c'est le point de vue de qui. Moi, de mon point de vue, ce n'est pas agressif, c'est juste je raconte mon histoire. Mais en France, si t'as un Rebeu ou un Renois qui raconte son histoire, il y a deux solutions. Soit il se plaint, en gros, soit il casse les couilles, il est en train de geindre, tu vois, soit il est violent. Alors que c'est juste raconter son histoire. Jusqu'à présent, raconter son histoire, c'est pas de la violence dans la mesure où t'as frappé ou t'as tué personne. Mais en France, c'est ça. Ça, c'est un point de vue de colon, ça. Tu vois, ouais, c'est agressif. Dès qu'il y a un oh là là, agression, agression, violence.
Ok. Donc voilà, c'est toujours le discours qui a amené sur la violence, donc toujours vu d'un côté. Et en fait, en faisant mes petites recherches sur le racisme, en fait, quand on tape racisme dans le moteur de recherche Google, eh ben, on tombe presque 1/2 des résultats. Ça parle de racisme anti-blanc.
Le fameux
racisme anti-blanc, dont on souffrirait terriblement en France. Je sais pas si vous vous rappelez de il y a quelques années Jean-François Copé et l'histoire des pains au chocolat, qu'on se moquait des petits Français à la sortie de l'école avec leurs pains au chocolat et qu'on leur volait leurs pains au chocolat. Bon, bref, voilà. Et en fait, toujours pareil, en faisant mes petites recherches, en fait, j'ai assez halluciné en me disant que c'était pas une question récente, en fait, parce que j'ai trouvé un extrait d'interview où on pose exactement la même question à Aimé Césaire. Donc ça commence à dater, quoi. On va l'écouter, Aimé Césaire y répondre poliment.
Dans votre discours sur le colonialisme, vous avez dénoncé le racisme blanc. Ne croyez-vous pas qu'un autre racisme est en train de naître aujourd'hui, un racisme noir?
Oui, on l'a beaucoup dit, mais vraiment, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que, voyez-vous, parfois on a dit dans les meilleures intentions du monde, par exemple, Sartre a défini la négritude, un racisme antiraciste. Et même ainsi défini, je n'accepte pas. Je ne suis pas raciste, Senghor n'est pas raciste, Alioune Diop n'est pas raciste. Nous voulons l'épanouissement de l'homme noir, mais n'oubliez pas qu'une des traditions les plus africaines et les plus authentiquement africaines, c'est précisément l'humanisme. Autrement dit, être raciste, c'est être infidèle à la négritude.
Et puis donc rappelons aussi que le racisme quand même est associé à toute une série de discriminations qu'on ne subit pas. Hein. Donc on peut, même s'il y avait de l'essentialisation, ça peut arriver sur une catégorie blanche, il n'y a pas toutes les... On ne subit pas d'oppression, bon... C'est un faux sujet de merde, mais vraiment qui est très 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 présent comme une défense un petit peu. Ah, mais non, mais vous aussi, vous êtes raciste, non, voilà. Toujours dans le traitement des médias, on va réécouter Kazé sur... va nous parler de comment on traite aussi les... certaines stars, notamment du football ou...
Certains rappeurs, ouais. Beaucoup de footballeurs, ouais. Ça pose un problème. Ça c'est le point de vue colonial. Quand c'est des Noirs et des Arabes qui ont des thunes, ils dépensent jamais bien, ils sont toujours vulgaires, tu vois. Il y a toujours de la vulgarité. Par contre, tu vois, on interroge toujours l'argent des parvenus, l'argent de ceux qui l'ont gagné en n'ayant rien avant. Par contre, l'argent des vrais fortunés, c'est-à-dire des aristocrates de France, ou cet argent vraiment qui se transmet de génération en génération, on ne l'interroge jamais. C'est-à-dire, on ne trouve jamais vulgaire qu'un seul mec et un château de 2000 mètres carrés dans le Loiret. Ça, c'est pas vulgaire, ça, c'est de l'argent bien dépensé. Je sais pas, ça, c'est un point de vue de colon, ça, tu vois. Je veux dire, on va te parler des gens de Benzema, tu vois, mais on va pas te parler du château de François Fillon. C'est un point de vue, ça dépend de qui parle, c'est tout. Vu que c'est les mêmes qui parlent et qui comprennent pas, qui nous comprennent pas, qui nous aiment pas, qui veulent pas nous voir, bah tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, ça pose problème.
Ouais, c'est un truc sur la vulgarité, on sent le racisme et le mépris de classe mêlés en fait. J'avais un tout petit bout aussi d'un extrait d'un meeting que j'avais déjà passé, certains extraits, c'était pendant les mobilisations sur la loi travail, et elle revient sur l'histoire du burkini. 2016.
Beaucoup des militants, des manifestants du mouvement social contre la loi travail estime que l'épisode burkini, j'aime pas dire burkini, mais bon, tenue de bain de certaines femmes, était une diversion pour occulter les mobilisations du loi-travail. Non, c'était pas une diversion. Ça, c'est dans les rêves, ça, que c'est une diversion. Ce n'est pas une diversion. L'épisode burkini était la continuité de la politique coloniale de l'État français à l'égard des femmes musulmanes.
Bon, ça va passer vite, quoi, mais bon, voilà, pour dire que ouais, c'est en continu qu'on entend ce genre de conneries dans les médias, et Cazet va continuer à développer, elle va donner quelques exemples, etc.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine libération de ces paroles.
Bah, on dit ça à chaque élection, qu'il y a une droite décomplexée, que le racisme se libère. Mais tu sais, t'as vu, après, c'est peut-être moi, ma grille de lecture, tu vois, t'sais, ou ma façon de regarder les choses, mais j'ai l'impression que ça a toujours été ça. Hein, t'sais. Après, je te dis, ça dépend la position que t'occupes, quoi, tu vois. Moi, j'ai l'impression que ça a toujours été ça. Enfin, leurs conneries, là, où ils les racontent toute la journée depuis des années. Enfin, j'ai l'impression que depuis que j'y vais, j'entends que des conneries, moi, en
ouais,
France.
Ouais, mais tu sais, il y a une sorte de vernis, normalement, et là, Bamboula, tout vole en éclats, quoi.
Enfin, Bamboula, c'est convenable. Il y a quoi ? C'était il n'y a pas si longtemps, Guerlain, il a dit les nègres n'ont pas autant travaillé. Enfin, je sais pas, c'est tout le temps. Bah, il y en a plein. Il y a eu, je sais pas, Sarkozy, le discours de Dakar. Enfin, c'est tout le temps. Mais après, soit tu les entends ou tu les entends pas. Je pense pas avoir une oreille bionique. Mais peut-être que moi, j'y fais plus attention à ces trucs-là, tu vois. Mais c'est toute la journée. Mais toute la journée. Après, je te dis, c'est peut-être une grille de lecture. Moi, toute la journée, je vois des trucs. Enfin, tout le temps, tu vois, je te dis.
On en parlait précédemment, mais tu vois, il y a des mots un peu valises, comme ils disent immigrés pour pas dire race. Tu vois, c'est ça dont
mais je, bah après, je te t'as parle vu, quand on parle de vernis. Le vernis, il saute, hein, tu vois. Les vernis, ça se craquelle, mais je pense que si t'es immigré ou si t'es noir ou t'es rebeu, tu l'entends, le mot derrière. T'entends qu'on est en train de parler de Renoir ou de rebeu.
Bah,
tu l'entends.
Tu vois, même moi, en tant que blanc, bah, je les entends aussi complètement.
Bah, c'est peut-être ça qui a changé. Peut-être que c'est ça qui change. Peut-être que t'as pas mal de blancs maintenant, tu vois, qui quand on a le cul et qui entendent tout ça. C'est peut-être ça qui a changé. Mais si t'es Renault, t'es rebeu, tu l'entends le vernis, tu vois, tu le sais, tu la vois la douille, la carotte, tu la vois. Peut-être que ce qui est en train de changer, effectivement, des deux bords, c'est qu'il y a une scission entre ce que j'appellerais les blancs cassés, là, ceux dont je dirais qu'ils sont avec nous, c'est-à-dire ceux qui sont parfois convertis, ceux qui sont avec des Renois, des Rebeux, qui traînent, qui sont mariés avec eux, qui sont frères avec eux, qui sont potes avec eux, et qui pour eux ça devient insupportable. Et puis les autres qui eux vivent ça comme une perte d'identité, comme une invasion, comme le grand remplacement, enfin toute la mythologie autour de ce fameux grand remplacement, de cette invasion d'abeilleuses, tu vois. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est ça qui change. Sinon, les conneries, ils les disent tous les jours, quoi. Enfin, je sais pas, tu peux remonter à Chirac, le bruit et l'odeur, enfin, je sais pas. C'est toute la journée. Toute la journée, j'écoute, je regarde la télé, je vois des pubs. Il y a pas longtemps, j'ai vu une pub qui est dans le métro. Je sais pas si elle est encore dans le métro pour la SPA. Tu vois un gars, il est marron, et puis il a un chien marron. Et il y a marqué « Adoptez le chien qui vous ressemble ». Moi, tu sais, direct, je l'ai vu. Je dis, bon, bah, ça se fait encore, ça. Tu vois, on met un chien marron, un gars marron, tu vois. T'sais, on dit, adopter le chien qui... Tu sais, qu'est-ce que je te dis ? Ces conneries-là, c'est toute la journée. Mais vraiment, toute la journée. Mais je te dis, il faut avoir la grille de lecture pour. Moi, peut-être que j'ai la grille tout le temps. Et je suis tout le temps on sur ces trucs-là. Enfin, on est plein à cogiter comme ça, tu vois. Mais c'est juste que... Je trouve que parfois, même chez les rebeux et les renois, il y a encore un petit complexe de parler comme ça. Il y a encore ce petit complexe de « qu'est-ce qu'ils vont penser de nous ?» Non, mais t'as vu, ok, on le pense, mais faut pas le dire tout haut, parce que sinon, ils vont croire que... Mais t'inquiète, ils le croient déjà. Enfin, en tout cas, tu sais, moi, j'ai aucun intérêt à convaincre un raciste. Enfin, c'est une peine perdue, c'est fini, j'en ai rien à foutre. C'est ça, l'histoire. Et t'as encore ceux qui sont encore dans le fantasme de vouloir les convaincre. Le racisme, c'est... Le racisme, c'est un réflexe, hein, c'est viscéral. Ça n'a rien à voir avec tes diplômes, ton niveau d'éducation, ton niveau de langage. C'est juste, on n'aime pas ta gueule, c'est tout. C'est aussi con que ça. J'ai rien à dire à ces gens-là. C'est peine perdue, ouais. Tu vois. C'est une intoxication, tu vois. Mais après, cette intoxication, je te dis, les prises de tête au bistrot, je m'en fous. C'est le racisme au niveau de l'État qui est relou. Tu vois ce que je veux dire ? C'est relâcher des keufs parce que ça, on n'en parle pas. Tu vois, par exemple, c'est bizarre pour l'histoire de Théo ou d'Adama ou de Ziyad Bouna ou Bentounsi.
Historiquement, il n'y en a aucun qui est condamné.
Déjà d'une, et ce qui est marrant, on ne te dit pas la race de ceux qui les ont tués. Par contre, quand il y a une bavure des États-Unis, on va dire des policiers blancs qui ont tué un noir. En France, ils n'ont pas de race. Et je trouve que c'est intéressant. J'aimerais bien savoir qu'ils étaient de quelle race. Parce que quand on les voit après en DTO, moi, je vois des Baptous. Et ça compte ou pas en France ? Ça existe ou pas ? Mais vu qu'il n'y a pas de race, il n'y a pas de racisme. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec un keuf de droite ? Ou un keuf qui a une affiche FN dans son comico ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce que si moi je me fais appréhender par un flic d'extrême droite, qu'est-ce qui va m'arriver ? Parce qu'on fait le blanc comme on fait le noir, hein, ça, ces histoires de race, ça a toujours été une carotte. Hein, tu vois ? Mais apparemment, là, t'as en France, les gens ont décidé de s'accrocher à ça, aux races. Les races, on en parle tout le temps, moi, c'est ça qui me fait chier. Et j'aimerais qu'on en parle ouvertement, en fait, pour dépasser le problème.
Alors... Les races, on en parle tout le temps et en fait, on n'en parle pas ouvertement. Il se trouve que l'Assemblée nationale, alors c'était quand ? Le 12 juillet 2018, a modifié l'article 1er de la Constitution française. La modification, donc ça a été... Alors, l'article, c'était « La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ». Et donc, on a effacé le mot « race » de la Constitution pour y mettre « sans distinction de sexe », qui a été ajouté. On va d'abord... écoutez un petit extrait de ça doit être Télé-Sénat ou un truc comme ça, sur les députés. Enfin, on va entendre plusieurs personnes politiques, dont Macron à la fin, qui se gargarisent d'avoir enlevé le mot « race » de la Constitution.
Et d'ailleurs, ça parle de sexe, mais pas de genre.
Tout à fait.
Pour 119, contre 0, l'amendement est adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale.
La suppression du mot « race » ne relève donc pas uniquement de l'ordre symbolique, elle met aussi fin à une ambiguïté fruit des acceptions et des usages de ce mot à travers l'histoire.
Supprimer le mot « race » est donc évidemment un symbole puissant, mais aussi une évidence à laquelle le gouvernement ne peut que souscrire.
Mené dans cet hémicycle, tant sous un angle constitutionnel qu'ordinaire, de longue date, par des députés de différentes sensibilités, mais notamment, disons-le, c'est factuel, des bancs communistes.
Il n'y avait ni dans les amendements, ni dans les discussions en commission, ni ici au moment du vote, aucun représentant de l'extrême droite qui était présent pour faire, comme nous, la suppression du mot race. Et je veux le dire parce que c'est justement de ces bancs-là que les thèses racistes ont toujours émergé, cherchant à les rendre scientifiques, cherchant à les éduquer, cherchant à les promulguer politiquement et philosophiquement.
Donc voilà, donc il semblerait qu'enlever le mot race de la Constitution enlèverait magiquement le racisme dans notre société. On va voir ce qu'en pense Pop Ndiaye, qu'on avait déjà entendu aussi en historien français.
La race influe dans notre société au sens où elle est une catégorie imaginaire puissante. De toute évidence, la couleur de peau, par exemple, qui en est une des caractéristiques principales, pas la seule d'ailleurs, n'est pas une simple caractéristique physique comparable à la couleur des cheveux ou à la couleur des yeux. La couleur de peau, c'est un élément, un marqueur social qui a des effets puissants dans la société, dans l'accès au marché du travail, dans l'accès à certains loisirs, dans l'accès au marché immobilier, par exemple. Être noir ou être blanc, pour ne prendre que cet exemple, Ça n'est pas tout à fait la même chose, ça n'est pas comme avoir des yeux bleus ou des yeux bruns. C'est donc dire que, bien que la race soit évidemment complètement invalidée d'un point de vue scientifique, pour autant, elle existe encore comme une représentation imaginaire avec des effets sociaux qui sont tout à fait présents. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les sciences sociales, beaucoup de chercheurs, des historiens, des sociologues, des anthropologues utilisent le terme de race, non pas parce qu'ils croiraient en l'existence des races, mais parce qu'ils reconnaissent pragmatiquement que la race, comme catégorie imaginaire, influe dans l'organisation sociale des sociétés passées et présentes. En France, on est particulièrement réticent. C'est lié à la fois à l'héritage républicain depuis la Révolution française, où l'on est méfiant à l'égard de particularités individuelles. On pense le citoyen dans une forme d'abstraction politique, débarrassé en quelque sorte de caractéristiques physiques ou même de choix culturels ou religieux. Donc il y a ce fondement républicaniste qui est méfiant à l'égard des différences finalement. Et puis il y a aussi évidemment l'histoire du XXe siècle qui est passée par là, l'histoire de la colonisation, mais aussi la Seconde Guerre mondiale. Enfin, l'importance, l'influence du marxisme, d'une manière de penser les inégalités d'abord par le prisme de la classe sociale. C'est très révélateur de la difficulté de la gauche, des progressistes en France, à se saisir de questions qui pourtant permettent de mieux analyser les inégalités de la société française. Il n'y a pas que la classe, il n'y a pas que les inégalités générées par l'économie de marché qui permettent de comprendre notre société. Il faut aussi s'attaquer à d'autres formes d'inégalités, les inégalités de genre, mais aussi les inégalités de race, parce qu'il faut bien l'appeler par son nom. Cette suppression risque d'affaiblir le combat antiraciste. On sait bien que cela n'aura aucun effet sur le racisme, qui ne va pas disparaître parce qu'on aura fait disparaître le terme de race. Et donc c'est typiquement l'un de ces grands gestes législatifs, plein de bonnes intentions, mais dont les effets seront, de mon point de vue, négatifs.
Donc voilà, on a du mal à parler de race et et en fait, on a aussi du mal à dire le mot noir. Toi, tu proposais, Charline, qu'on écoute un extrait.
Il y a un extrait de Ouvrir la voie, du coup, dont j'ai parlé un peu la semaine dernière. Et c'est un extrait qui s'appelle Il s'agit d'un black. Je ne sais pas si on l'écoute maintenant ou pas.
On peut.
C'est comme l'histoire du mot noir, quoi. Beaucoup de personnes vont te dire gens de couleur, black, etc. parce que c'est mal de dire le mot noir. Ce n'est pas mal de dire le mot noir. C'est juste qu'on a rendu tabou et on place le racisme là où il n'est pas.
Et je ne sais pas le nombre de fois que j'ai entendu black, 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 black. Les gens, ils ne veulent pas dire le mot noir. C'est quand même un problème. Tu peux pas... Tu peux même... pour eux, c'est comme si c'était une injure de te dire que tu es noir.
C'est une stratégie d'évitement. Et je trouve que dans un pays comme la France, qui est tellement attaché à sa langue, qui est capable d'organiser des débats, de voter des lois, sur l'orthographe. On a l'Académie française, enfin voilà. Et je trouve qu'en France, on a du mal à nommer ce qui est perçu comme une différence. Pas seulement la différence, mais la différence qui peut être problématique. Donc je trouve que black, ça participe de ça.
Ça, c'est le truc que je rectifie à tout le monde. Si tu me dis black, je dis noir. Tu veux dire noir ? Oui, oui, je suis noire.
À chaque fois qu'on me dit black pour dire noir, enfin ça, je comprends pas non plus. Et à chaque fois, je me bats. Mais c'est la même chose. Ben non, c'est la même chose, en fait. On est en France. Moi, je t'appelle pas white, donc m'appelle pas black, quoi.
On pourrait très bien dire, oui, les white... Bon, voilà, on pourrait très bien le faire, on le fait pas.
Non, personne n'utilise white, alors que ça choque personne de dire black, même à la télé.
J'ai regardé une série Esprit criminel. Oui, il s'agit d'un black. Pourquoi dans toute une série, tout est traduit en français sauf le mot noir? Et ça, c'est... on pourrait compter. Je crois que dans 80% des séries, on a le mot black qui ressort.
J'ai toujours trouvé ça bizarre. Sinon, dans le langage courant, il y a aussi dire renoi pour éviter de dire noir. En fait, le but de tout ce jeu-là, c'est de ne pas dire noir. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que dire noir, c'est être raciste.
Ça leur fait peur d'utiliser le mot noir. On me l'a dit au travail. Oui, mais quand je dis noir, j'ai peur qu'on pense que c'est pour vous insulter.
Voilà, il y a un petit truc qui montre le malaise, le positionnement ambigu. Et voilà, c'est ça que ça reflète. Donc, qu'est-ce qu'on n'ose pas dire quand on... En gros, tout le monde dit black facilement. Enfin, souvent, on peut dire black facilement. Et on a énormément de mal à dire noir. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Donc, ouais, tout à l'heure, Papa Ndiaye, il disait le racisme, c'est une catégorie imaginaire, quoi, puissante. Et on voit quand même à quel point c'est puissant, puisque, en fait, on est emmerdé avec ce mot noir qu'il faudrait euphémiser, parce qu'en soi, même, il porte tout un truc, donc sans doute de sauvagerie, de je ne sais quoi, qui est hyper négatif, quoi.
Bah ouais, non, mais juste, on est dans une société, là, qui est hyper hypocrite, en fait, parce qu'on retire le mot race, on dit pas le mot noir et tout, et, mais c'est des choses qui existent, en fait, juste quelqu'un qui a la peau noire, elle a la peau noire, et c'est tout, enfin, il y a pas de... Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre, en fait, qu'on soit obligé d'utiliser comme ça des stratégies d'évitement, et y compris même dans les institutions, quoi, parce que, enfin, à partir du moment où le mot race... je pense, est retiré de la Constitution, et bah, quand tu es victime de racisme et que tu veux te défendre contre ça, et bah, qu'est-ce que tu dis, en fait, quand tu vas voir, je sais pas, les gendarmes, tu croises, enfin, si tu es en contact avec un avocat, ou quoi, comment est-ce que tu définis ce que tu as vécu, quoi ?
Contre quoi tu te bats ?
Ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus, on a parlé d'intersectionnalité la semaine dernière et la semaine d'avant, et du coup, bah, tu te retrouves dans une... Par exemple, si t'es une femme noire, et bah, c'est difficile de dire bah, « j'ai été victime de ça parce que je suis une femme » ou « j'ai été victime de ça parce que je suis noire ». Et en plus, du coup, le fait qu'on enlève cette histoire de race, et bah, ça t'enlève en plus un critère, quoi. Enfin, un critère, ouais. Et moi, je trouve ça un peu... ça me questionne beaucoup, finalement. Mais bon.
On va entendre Kazé sur la même question du mot « noir ».
C'est normal. C'est, vu que ces termes-là ont été très longtemps utilisés dans un sens péjoratif, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui les utilisent avec précaution, parce qu'ils n'ont pas envie d'être associés à tous ces termes, bico, melon, raton, négro, bamboula, voilà, qui étaient utilisés. Donc voilà. Mais parfois, oui, peut-être qu'ils y mettent un peu trop de pincettes, quoi. Ça va. Noir, ça n'a jamais été une insulte. C'est le ton, hein, qui fait la différence. Tu vois, c'est comment c'est perçu. T'inquiète pas, moi j'entends les. On a une gamme. On a tout le solfège du mot noir. Il y a certaines fois, il tombe dans des gammes. Tu te dis ah là, il est en train de me dire autre chose. Puis il y a des fois, c'est juste, on te dit c'est noir. Tu vois, parce que souvent les gens te disent bah c'était Jean-Philippe. Tu sais le. C'est la tonalité. Mais justement, nous, ceux qui sommes vraiment ensemble et tout. Nous, on n'a pas de souci avec ça, tu vois. Et puis après, tu as ceux qui, oui, peut-être, il y a une forme chez beaucoup de culpabilité, mais c'est pas la culpabilité que demandent les minorités en France, c'est l'égalité. Je demande pas aux gens de se flageller, de marcher sur des braises ou sur du verre pilé. C'est juste, en gros... Sentez-vous concerné, même les blancs, sentez-vous concerné par le racisme, même si vous n'en êtes pas victime. Voilà, c'est tout. Que tout le monde se sente concerné. Parce que c'est une injustice. On n'est pas en train de parler de morale, de passion, de ce qui est bien, ce qui est mal. Ah, ça te fait mal, ça me fait. Je m'en fous, je ne suis pas dans la passion, je ne suis pas dans la morale, je ne suis pas dans l'affectif. C'est juste de l'injustice. Et voilà, il faut de l'égalité, c'est tout.
Autre chose qu'on entend souvent aussi, c'est toute la thématique du vivre ensemble, de l'intégration. L'intégration à la française, c'est une assimilation parfaite, hein, de toutes nos normes et surtout de gommer toutes les différences, quoi. Et Kazé va nous faire sa définition du vivre ensemble, que je trouve pas mal aussi.
Parce qu'on dirait que ce qui joue sur la présence des uns et des autres en France, c'est est-ce qu'on va nous aimer ou pas. Mais on s'en bat les couilles d'être aimé.
s'en bat les couilles d'être aimé ou de pas aimé. De toute façon, on est là. Ça va pas jouer sur de l'amour. On s'en bat les couilles, tu vois.
Ça peut se jouer sur le respect, déjà.
Écoute, ça va jouer sur des lois, on n'est pas obligé de s'aimer. Tu vois, ceux qui parlent, par exemple, les mots-clés que t'entends partout, là, vivre ensemble, ça veut rien dire. Ceux qui parlent du vivre ensemble, c'est ceux qui vivent entre eux. Ceux qui vivent ensemble, t'es en test, tout le monde vit ensemble. Hein. On n'a pas demandé de ces mots de se respecter, faut juste qu'il y ait des lois pour pas qu'on s'entretue les uns les autres. C'est tout. Mais j'ai pas besoin d'aimer mon voisin, c'est pas ça l'histoire, tu vois. Mais c'est pas parce que c'est un babtou ou que parce qu'il aurait des idées extrémistes ou rétrogrades sur ce qu'est la France qu'il a le droit de venir me fumer. C'est ça l'histoire, tu vois. C'est juste... deux, trois lois, histoire que l'égalité se mette en place. Après, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, c'est pas grave. De toute façon, on est tous là, va bien falloir qu'on vive ensemble. Mais nous, vivons ensemble, on vit déjà ensemble. Ceux qui vont te parler de ça, c'est ceux qui vivent entre eux. Puisque la plus grande communauté en France, c'est la communauté blanche. Mais elle s'estime pas être une communauté. Si moi, je parlais avec deux Renois, ça y est, on fait du communautarisme. Mais toute la journée, je vois des babtous parler entre eux, c'est pas un problème. Je sais pas de quoi on parle. C'est normal que des gens qui émigrent, quand ils arrivent dans un endroit, se rassemblent avec les leurs, ça c'est normal. Là, tu me parles de communauté de race, mais il y a des communautés, je sais pas, d'orientation sexuelle, par exemple le Marais. Tu vois ? Il y a plein de façons d'être communautaire. Il y a les Bretons qui se retrouvent près de la gare Montparnasse. Il y a les Auvergnats qui se retrouvent près de la gare de Lyon avec les brasseries auvergnates. Et ça, c'est pas du communautarisme. Tu vois, il y a des, je sais pas, il y a les anciens de Polytechnique qui se retrouvent entre eux, tu vois, parce qu'ils ont envie d'être entre eux, entre anciens de Polytechnique. Il y a plein de façons de se rassembler sur plein de postulats différents, tu vois. Mais si c'est des Renois entre eux, des Rebeux entre eux, des Chinois entre eux, des Indiens, ça y est, c'est la guerre. Mais si les Indiens ont envie d'être entre eux dans le dixième, ils ont le droit ou pas? Moi, j'ai jamais vu ça comme problématique. Moi, je viens d'une famille antillaise. Bon, bah, les Antillais, des fois, ils sont entre eux. Dans ma famille, ils aiment aller dans des soirées antillaises, tu vois, se retrouver à des concerts avec d'autres Antillais, tu vois. Et pourtant, ils fréquentent aussi d'autres gens. Enfin, les gens, ils font ce qu'ils veulent.
Je trouve qu'elle est très claire dans ce qu'elle dit. Il n'y a rien à ajouter quelque part. Enfin, si vous avez envie d'ajouter quelque chose, vous avez le droit. Hein. On arrive au bout de ce qu'on a. J'ai un tout dernier petit bout qui est plutôt de l'ordre de justement une fois qu'on a vu tout ça en fait, ouais, c'est un peu un appel à l'introspection de chacune, de chacun, pour voir tout ce qu'on a pu intégrer en fait et essayer de se débarrasser de tout ça. Et il y a donc Pierre Thévagnan, dont j'ai beaucoup parlé, qui a écrit un bouquin qui s'appelle avec des femmes d'ailleurs, qui s'appelle Les femmes voilées parlent. Et il dit ce que ça lui a fait en fait de faire ce bouquin, de lire les témoignages, etc. Ça va vite, hein, mais on l'écoute.
On se rend compte en lisant ce livre qu'on a là des femmes qui sont effectivement 45 tempéraments différents, plus différents que ce qu'on pensait, des femmes capables de penser plus que ce qu'on pensait, des femmes capables d'être drôles plus que ce qu'on pensait. Et par conséquent, on se rend compte que soi-même, on avait aussi plus de préjugés, parce que c'est pas que ce sont des femmes plus intelligentes, plus drôles et plus singulières que les autres, c'est que simplement, on se rend compte soi-même comme lecteur, et c'est une expérience assez intéressante, qu'on avait plus de préjugés et de prérequis ou d'attentes que ce qu'on pensait.
Je trouve que il y a un côté assez courageux de le dire déjà pour un militant antiraciste et que en fait il y a un vrai truc là-dedans au bout du bout il y a une croyance en une inégalité des intelligences. Quelque chose de cet ordre-là qui est vraiment intégré et qui les tente de faire voler en éclats, quoi. C'est fou. Des remarques ?
Non, moi, je veux juste bien vous conseiller un article qui a été publié sur le blog de Joao. Je ne sais pas comment ça se prononce. Qui a été aussi... publié sur Bourras qui s'appelle « La loi anticasseur, la gauche et la question raciale ». Et c'est un article que j'ai trouvé hyper intéressant parce que du coup, il revient sur les réactions suite à la loi anticasseur et notamment sur le délit de dissimulation du visage. Et juste, il rappelle en fait que le délit de dissimulation du visage, il apparaît dans la loi depuis 2011. Il concerne les femmes voilées. Et qu'à l'époque, en fait, il n'y a eu aucune réaction, ni de la gauche, enfin, ou très peu de la gauche ou de l'extrême gauche. Ou alors les gens qui réagissaient étaient qualifiés d'islamo-gauchistes. Et voilà, en fait, du coup, il remet un peu en question le racisme du milieu militant et de gauche et d'extrême gauche, quoi. Que, en fait, aujourd'hui, tout le monde s'offusque de ce délit de dissimulation du visage en manif, mais en fait, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a une catégorie de la population qui est concernée par ce délit, quoi.
Ça fait penser aux mêmes, la même question que les violences policières, qu'on découvre, le milieu blanc découvre avec les mobilisations, mais qui est là depuis longtemps, cibler une population. Il y a un autre livre aussi, du coup, je viens de me rappeler que ce samedi, il y avait Françoise Vergès à la petite librairie, son livre s'appelle « Un féminisme décolonial ». Et c'était intéressant. Je crois que le feu, la rage, l'orage va peut-être...
En tout cas, ça a été enregistré. Alors, je pense qu'on va en prendre des bouts pour le prochain, le feu, la rage, l'orage. Mais je pense que tout était intéressant. Du coup, peut-être un MEP prochainement avec toute l'intervention de Françoise Vergès.
Ça peut être bien.
C'était intéressant.
C'est intéressant, elle amène à décentrer le regard très franco-français qu'on a. C'est
un retour historique aussi, la questionnement sur demander des droits, tout ça. Enfin, il y a plein de choses intéressantes, je trouve.
Ouais. Il y a vraiment des choses chouettes dans ce qu'elle propose. Et donc, du coup, ça
donne envie de lire son livre, vraiment.
Ouais, qui apparemment justement n'est pas écrit, en plus est simple à lire, quoi, dans le sens où il est écrit pour qu'un max de gens puissent le lire, et voilà, sans grandes phrases très compliquées, ce qui est pas mal. On va écouter Kazé, on va écouter alors Popoufouf, je suis pas du tout bien là, voilà, on va écouter Chez moi.
Charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline, et le créole et son mélange de mélanine. Connais-tu le morne et la ravine, le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine, et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le Montpellier et la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de tartane, et les touristes aux seins nus à la plage des Salines, pendant que la crise de la banane s'enracine. Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thiémile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrob. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrob. Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum, la tristesse, les coupures et les angines, que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde sont nos origines, que l'on mange riz et curry comme tu l'imagines? Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seules leurs gosses, les nourrissent et les habillent? Sais-tu qu'on n'écoute pas David Martial, la compagnie créole, et c'est bon pour le moral, et que les belles doudous ne sont pas à la cuisine, à se trémousser sur un tube de zouk? machine. Sais-tu que là-bas, les petits garçons, jusqu'à 4 ans, doivent garder les cheveux longs? Et sais-tu aussi que mon prénom et mon nom sont les restes du colon britannique et breton? Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu compris avec la Bible? Faites le carnaval comme toute la Caraïbe. Que nos piments sont redoutables. Nos anciens portent des noms du sexe opposé pour éloigner le diable. Sais-tu que chez nous c'est en blanc, et au son des tambours qu'on va aux enterrements, et qu'une fois par an, cyclone et grand vent emportent casse en tôle tous les vêtements. Sais-tu, comme enfants et femmes, labourer les champs et puis couper la canne. Sais-tu que tous étaient victimes, esclaves ou nègres marrons, privés de liberté et vie intime. Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies. Mais putain, sais-tu, encore aujourd'hui, Madinina, l'île aux fleurs est une colonie. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, à ma famille et aux Antilles.
Personne qui l'explique et personne qui ne le comprenne. Les êtres humains sont des animaux mammifères, bipèdes, qui se distinguent des autres mammifères, comme les baleines ou bipèdes, comme la poule, principalement par deux caractéristiques. Le téléencéphale hautement développé et le pouce préhensile. Le téléencéphale hautement développé permet aux êtres humains d'emmagasiner des informations, de les mettre en relation, de les ordonner et de les comprendre. Le pouce préhenseur permet aux êtres humains un mouvement de pince des doigts. Celui-ci, à son tour, permet une manipulation de précision. Le téléencéphale hautement développé, allié à la capacité de faire un mouvement de pince avec les doigts, donna à l'être humain la possibilité de réaliser d'innombrables améliorations sur sa planète. Entre autres, de cultiver des tomates.
Des corps, de la bricole et un de ces merdiers
sur Radio Piquesse.